Vous écoutez France Culture.
Talmudique. Une émission de Marc-Alain Wachnin. Rabbin Yann Boissière, bonjour.
Bonjour.
C'est un très grand plaisir de vous recevoir à Talmudique. Vous êtes rabbin du mouvement juif libéral de France, plus connu sous le sigle de MJLF.
Absolument.
Vous êtes auteur de nombreux articles importants sur le judaïsme et vous avez participé récemment à la grande aventure éditoriale du Dictionnaire du judaïsme français depuis 1944 sous la direction de Jean Lesselbaum et d'Antoine Speer. Dimanche prochain, les Juifs du monde entier fêteront Pourim, une fête très riche en rites et en symboles, fondée par le récit biblique du livre d'Esther dont on connaît le succès. Théâtre, musique, peinture, roman, de nombreux artistes y ont trouvé une forte et belle inspiration. Cette fête, qui peut apparaître de l'extérieur comme un carnaval juif, est très suivie dans le monde entier, non seulement par les enfants qui sont très impliqués, mais aussi par les parents, que ce soit dans les milieux religieux ou laïcs. Le livre d'Esther se présente comme un conte qui allie à la fois légèreté et gravité, d'une richesse vertigineuse, dont la portée philosophique, symbolique et théologique peut sans cesse être questionnée et réactualisée. Ce texte pose de très nombreux problèmes, et en particulier dans la réception qui en est faite par des personnes désirant trouver un fondement et une légitimité à leur antisémitisme. Nous consacrerons deux émissions à cette fête et à ce rouleau d'Esther. Nous explorerons cette semaine, si vous le voulez bien, sa signification, sa naissance, ses rites et son histoire à travers le temps. Et la semaine prochaine, nous aborderons le plan théologique et philosophique. Mais tout d'abord, Rabbin Boissière, que signifie cette fête pour vous? Comment se prépare-t-elle et comment est-elle vécue dans votre communauté du MJLF?
Merci de cette invitation, tout d'abord. Effectivement, c'est une fête, je dirais, que l'on prépare tout particulièrement. Des fêtes, nous les connaissons, elles sont régulières dans notre calendrier, dans nos agendas, dans nos consciences, mais la fête de Pourim demande peut-être une préparation particulière, déjà à travers des choses apparemment très triviales, mais qui ne le sont pas, comment je vais me déguiser cette année, et à travers cette question anodine, en fait, ça nous force à réfléchir sur, on abordera sûrement ce thème, sur la façon dont je veux paraître, me déguiser, me voiler, donc on voit déjà révélation, voilement, des thématiques très importantes, et quand bien même c'est personnel, en fait, ça touche au fond de la fête et de ce qu'elle a à nous dire. Je dois dire qu'au MJLF, donc le Mouvement Juif Libéral de France, on s'y prépare tout particulièrement aussi parce que c'est une fête qui donne lieu à une créativité assez importante de la part de nos membres. Bien entendu, il y a deux lectures. Ces deux lectures sont traditionnelles. L'une qui a lieu le soir même du jour et puis le lendemain matin lors de l'office du matin. Et celle du soir est depuis quelques années conventionnellement considérée comme la fête de la créativité. Et ce sont des membres, des fidèles, certains d'ailleurs écrivains et tout à fait bonnes plumes, qui écrivent un Purim Spiel Mechadash, vraiment de Aleph jusqu'à Tav, complètement nouveau, avec intégration de chants, enfin de chansons populaires. Et donc c'est une véritable comédie musicale qu'on écrit. Cette année, ça s'appelle Esther Mania, pour vous dire. Et c'est vraiment une joie absolument débridée. Les fidèles participent très très activement, plus de 50 personnes qui se réunissent, qui font des répétitions ensemble. Et outre la joie, c'est aussi un moyen d'intégration formidable pour tout un tas de personnes, plus ou moins nouvelles dans la communauté aussi. C'est une fête qui prend de l'importance, en fait. Et d'ailleurs, c'est intéressant, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, mais c'est une fête qui, de toute façon, dans nos consciences juives, prend de plus en plus d'importance aussi. Et donc, on s'y prépare tout particulièrement.
Alors c'est très intéressant parce que je vais juste préciser certaines choses parce que vous les avez dites en hébreu et les auditeurs ne connaissent pas nécessairement le déroulement de la fête. Donc la fête de Pourim qui se passe le 14 Adar au soir, en général c'est en février-mars, à l'époque justement du Mardi Gras et des différents carnavals à travers le monde. Donc Pourim se présente comme un carnaval juif, mais pourtant ce n'est pas qu'un carnaval. Il y a le déguisement, vous en avez parlé, avec cet aspect philosophique du caché, dévoilé, du paraître, de l'être. Mais en même temps, il y a une ritualité, c'est à la fois très libre et en même temps très codifié. Et dans la codification de cette fête de Pourim, il y a une lecture qui est la lecture du livre d'Esther, qui se fait en général en hébreu. Et cette lecture a lieu deux fois. Une première fois le soir à la synagogue et le lendemain aussi à la synagogue. Et c'est l'occasion, dites-vous, non seulement de cette lecture traditionnelle, mais de cette créativité. Vous avez utilisé un mot dont on verra la signification plus tard, le Purimspiel, c'est en fait une sorte de théâtre de Pourim, on le verra avec Jean Baumgarten dans deux émissions. Le Purimspiel, mais et donc je vous pose une question, c'est-à-dire est-ce que vous avez remplacé dans votre communauté la lecture traditionnelle du livre d'Esther par une comédie musicale nouvelle?
J'ai envie de dire presque, vous avez rappelé combien effectivement Pourim est une fête très plastique, à la fois extrêmement codifiée et à la fois qui donne lieu effectivement à une grande liberté. La première lecture a lieu donc le soir à la synagogue. Alors nous ne l'avons pas remplacée, mais il est vrai que nous avons une lecture beaucoup plus libre ce soir-là. Formellement, bien sûr, on respecte le cadre de la Megillah, donc qui est le nom traditionnel réservé au rouleau d'Esther. Donc c'est un rouleau physiquement distinct, écrit sur un parchemin, que l'on présente d'ailleurs comme une lettre. Enfin, il y a tout un rituel lié physiquement à la façon de le lire. Donc le soir, lecture est donnée de cette Megillah, mais je dirais encadrée par peut-être les premiers versets de chaque chapitre et les derniers. Et à l'intérieur, comme une Amentaschen, comme une oreille d'Aman truffée de d'autres choses, eh bien c'est là que le Purimspiel a lieu. Donc on respecte le cadre formel, mais grande créativité. Le lendemain matin, où l'on relit effectivement, comme vous l'avez rappelé, cette Megillah, ce rouleau d'Esther, c'est plus traditionnel. C'est la lecture intégrale avec tous les versets. On aura l'occasion de dire d'ailleurs que cette lecture a été imaginée par les sages comme extrêmement vivante, d'une part parce que certains mots prononcés doivent faire l'objet de bruit, mais il y a aussi pour le lecteur des versets que l'on lit à voix haute, d'autres que l'on lit de façon rapide, d'autres que l'on lit d'une seule traite. Donc les sages ont porté beaucoup d'attention à des différences dans le texte.
On peut dire d'ailleurs que les maîtres du Talmud y ont consacré un traité entier, qui est le traité Megillah, qui est consacré à l'écriture très particulière de ce rouleau, parce que contrairement aux autres prophètes qui peuvent être écrits et lus dans un livre sur papier avec des pages, là il faut absolument que ça soit un rouleau écrit à la main sur des lignes tracées, pré-tracées, pré-lignées si on veut, exactement comme le livre de la Torah, ce qui confère à ce livre une sainteté toute particulière. Juste avant de vous poser la prochaine question, j'ai lu récemment, et je tenais à le dire parce que j'ai trouvé ça merveilleux, un commentaire de Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev qui dit pourquoi ce livre doit être préligné, pourquoi on doit, donc c'est un parchemin, pourquoi on doit tracer au point son sec. Donc en fait c'est pas des lignes avec de l'encre, c'est simplement
une sorte de gravure
sur le parchemin. Il dit parce que ces lignes s'appellent sirtout en hébreu, et sirtout ça signifie à la fois la ligne tracée sur le parchemin, mais ça signifie aussi les rides du front et des yeux. Mmh. Et il dit, quand on se regarde le matin dans la glace et qu'on voit ces rides sur son front et autour des yeux, il faut se réjouir de la page blanche que l'on a à écrire et de tout l'avenir qui nous est réservé. J'ai trouvé ça tellement merveilleux. Et comme il le dit en écrivant cette phrase, je me suis réjoui en ayant découvert cette idée, moi je me réjouis en vous la transmettant, parce que je trouve qu'il y a une telle leçon de créativité, d'ouverture et de futur du vivant que je croyais que c'était vraiment important de le dire.
Merci de ce texte que je ne connaissais pas et ça m'évoque immédiatement une thématique profonde. C'est la thématique du visage et de l'écriture. Bien sûr, on a la Megillah, donc le parchemin qui est lu. Et puis la thématique du visage est essentielle à Pourim de bien des manières. Le nom d'Esther qui signifie en hébreu « je cacherai ma face ». Donc voilà la thématique de la face et surtout la thématique des masques, Masechot, qui masquent le visage. Donc il y a aussi une écriture du visage particulière. Il y a un renvoi permanent entre la Megillah et le visage. Et j'aime beaucoup parce que dans le commentaire du rabbi de Berditchev que vous citez, il y a effectivement un renvoi au souci qui peut se lire sur le visage, les rides, donc quelque chose de joyeux, mais de triste aussi, d'une préoccupation, parce qu'il y a ce mélange doux-amer dans Pourim, et puis le renvoi au texte. Enfin, il y a une écriture à la fois du parchemin et du visage.
On retrouve sur ces rides la légère gravité dont je parlais, et vous avez utilisé un mot qui est très intéressant, c'est le terme de masque, et qui se dit en hébreu « masecha », d'ailleurs très proche du français « masque ».
Absolument.
Mais en même temps, c'est très intéressant parce qu'au pluriel, c'est « masechot », et ça renvoie aussi au terme hébreu qui dit le traité du Talmud. Un traité se dit « masechet ». Et là, on voit comment le masque et comment le livre se pensent ensemble, comment le visage et l'écriture se pensent ensemble. Et on peut dire, je crois qu'on ne se tromperait pas, en disant que Pourim est une fête de la lecture, est une fête du livre et de la lecture. Et c'est pour cela que je vais vous demander, avant que nous continuions cette conversation, de résumer très brièvement l'intrigue de ce livre dont on est en train de parler et dont nous avons l'obligation de lire les pages, le rouleau à Pourim.
Bien sûr, c'est
Rabbin Boissière.
C'est une intrigue tout à fait extraordinaire, d'ailleurs assez nouvelle dans l'ensemble des écrits bibliques. On pourrait presque dire un scénario hollywoodien avant la lettre, avec des rebondissements. C'est assez surprenant par rapport à d'autres passages bibliques. L'argument est connu, donc il se passe à la cour de Perse, sous un roi nommé Ahasuérus. Peut-être qu'on verra, historiquement évidemment, ça a soulevé d'immenses questions. Est-ce que c'est datable, etc. La datation traditionnelle est de dire que c'est le roi Xerxès Ier, Artaxerxès, vers le moins 5e siècle. Enfin bref, ça se passe sous la cour de Perse. Et puis donc nous avons cet homme, Mardoché, qui est pour la première fois qualifié de juif dans la littérature biblique. Mordechai à Yehudi, on reviendra sûrement sur ce terme de Yehudi, qui est employé pour la première fois, surprend des... Il s'intéresse de près à la cour et il apprend que l'un des conseillers du roi ne trouve rien de mieux que de vouloir jouer au sort le sort des juifs qui ne lui plaisent pas trop. Il est de nombreux juifs dans le royaume. Ces juifs maintiennent leur tradition de façon affirmée et ce Mordechai refuse de se plier devant lui, de s'agenouiller devant lui. C'en est trop. Il va voir Ahasuérus qui est décrit dans toute la neutralité du pouvoir avec ce qu'elle a de dangereux, à savoir c'est un petit peu le dernier qui a parlé, qui a raison. Il dit oui, très bonne idée, fais ce que tu veux avec ces juifs. Aman joue le sort des juifs au sort, donc c'est dans le terme de pour. Pour vient de l'acadien pourou, qui veut dire sort. Pour en hébreu, c'est aussi le sort, donc le hasard. Et voilà que le sort décide du 13 Adar, comme le jour où doivent être tués tous les juifs. Ça, c'est l'argument, mais entre-temps, des événements parallèles se mettent en place, notamment Esther, qui est choisie comme l'une des dames qui doit à tour de rôle passer dans le harem du roi, puisque c'était la pratique. Et voici qu'Esther, qui est juive, bien sûr, mais qui ne révèle pas son identité dans un premier temps, au début n'est pas spécialement concernée, mais c'est avec le travail de Mordechai de bien lui faire comprendre qu'elle a un rôle à jouer, que l'histoire l'appelle. Et c'est à la fois la prise de conscience progressive d'Esther, effectivement, qu'en tant que juive, elle a quelque chose à faire pour sauver son peuple, tout simplement. Et puis, avec une habileté stratégique tout à fait remarquable, elle va effectivement réussir à déjouer le plan d'Aman, voire de l'inverser. Les Juifs vont pouvoir se défendre, d'abord physiquement, parce qu'il s'agit d'une destruction physique, à l'inverse de Hanouka, qui est dont la thématique est plutôt la destruction spirituelle. Là, il y a un danger physique tout à fait précis. Et puis, donc, à déjouer ce plan, les Juifs vont pouvoir se défendre. Et c'est aussi une des thématiques très importantes, effectivement, la survivance, notre affirmation, et puis une ouverture sur le monde politique, une conscience que rien n'est jamais joué. Et c'est aussi une des actualités, bien entendu, constantes et de plus en plus constantes de notre histoire. Donc,
Et dans la fin de ce récit, ce qui est tout à fait intéressant, c'est que Esther elle-même et Mordechai de concert demandent d'écrire cette histoire et de l'envoyer à tous les juifs des 127 provinces du royaume pour que cette fête soit perpétuée de génération en génération. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une sorte d'intrication entre le récit et le texte. On va de la fête au texte et du texte à la fête.
C'est incroyable, effectivement. C'est, je crois, l'un des rares textes où, dans le texte lui-même, on parle de l'institution de ce texte comme devant être ritualisé. Donc, il y a un renvoi constant, effectivement, entre une mise en abîme du texte et du texte au visage aussi. On en parlera sans doute.
Rabbin Yann Boissière, je vous ai fait une surprise. Vous avez reconnu la symphonie des jouets. Alors, elle est soit attribuée à Haydn, soit à Léopold Mozart, le père de Mozart, et soit à un prêtre qui s'appelle Edmund Angerer du XVIIIe siècle. Mais j'ai choisi une version très amusante et j'invite les auditeurs à aller regarder sur la toile, comme on dit, parce que c'est une version qui a été donnée à Londres en 96 à l'occasion des 80 ans de Yehudi Menuhin. Et imaginez qui était à la crécelle, c'était Rostropovitch, le maître en personne, qui était en train d'agiter, et vous avez entendu le coucou du pipeau, c'est Anne-Sophie Mutter qui était elle-même. Et donc c'est très marrant, c'est une sorte de concert burlesque, et c'est Yann-Pascal Tortelier qui était à la baguette. Tout cela est très, très amusant. Mais si j'ai tenu à vous faire entendre cette symphonie, c'est parce qu'on entend une crécelle et la crécelle est devenue presque rituelle dans la tradition juive, puisque au moment de la lecture de cette histoire que vous avez évoquée avant cette musique, à la synagogue, on lit cette histoire et qu'on prononce le nom de Haman le méchant, les enfants, les adultes font du bruit et agitent cette crécelle pour des raisons que je vous demande justement, Rabbin Boissière. Pour quelles raisons agit-on une crécelle au moment où on prononce le nom de Haman?
Alors effectivement, c'est l'une des mesures prises par les sages pour animer cette lecture. La dimension du bruit est étonnamment est importante dans cette lecture. On doit recouvrir la lecture, c'est quand même pas banal. Je veux dire, on nous demande d'écouter la Megillah après tout. Mais il y a des trous dans cette lecture parce que l'assemblée doit à ce moment-là faire du bruit. Recouvrir, alors ça fait partie bien sûr d'une injonction générale. Il y a une lecture de la Torah particulière à Pourim aussi, qui nous demande de nous souvenir d'Amalek, et on connaît la double injonction, à la fois il faut se souvenir de ce que nous a fait Amalek, et à la fois il faut effacer. Alors c'est peut-être pas le propos de cette émission de complètement approfondir cette double injonction.
On peut poser quand même la question, enfin on peut quand même préciser pour les auditeurs, qui est Amalek?
Amalek, c'est le symbole de l'antisémitisme, toute période confondue. Il y a un lien formel bien sûr entre Haman et Amalek. Haman est fils d'Agag, d'Agag, et puis dans la filiation, donc Agag remonte effectivement à Amalek, mais je dirais que d'une façon générale, Amalek est l'emblème de l'antisémitisme. Il y a en toute génération des figures d'Amalek, et l'histoire malheureusement nous le prouve. Et donc il y a cette injonction générale qui commence avec le mois d'Adar, et particulièrement à Pourim, de se souvenir de ce que nous a fait Amalek, et en même temps d'effacer son nom. Et il y a cette pratique tout à fait remarquable, je crois, est née en France en plus, je ne sais pas, mais historiquement c'est assez intéressant, dans les communautés provençales, au XIVe siècle, si mes souvenirs sont exacts. En fait, ça se faisait avec deux pierres. On écrivait sur le nom des pierres le nom d'Aman, et il fallait les frapper l'une contre l'autre tellement fort, de façon à ce qu'on efface le nom d'Aman. Alors les Crécelles ont pris le dessus après dans l'histoire, mais je vois là, je ne sais pas bien d'ailleurs l'analyser, mais je vois là quelque chose de très profond. Deux pierres que l'on frappe, c'est le feu, c'est ancestral, c'est l'humanité de l'homme qui se joue dans cette lumière, dans ces pierres que l'on frappe l'une contre l'autre. On peut penser aussi aux tables de la Torah. Il y a quelque chose de très primaire, de très profond, et le fait de frapper pour installer à la fois une mémoire et un oubli, pour moi, c'est le comble de la civilisation. Il y a un raffinement, il y a une recherche des pierres au sens, des pierres à l'écriture dont on se souvient et qu'on efface. Il y a quelque chose de la civilisation juive qui se joue
c'est,
là.
C'est très très beau ce que vous dites, parce que je rappellerai le Sefer Yetzirah, le livre de la création, qui dit que les lettres sont des pierres. Et là, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout, mais vous m'avez donné un indice que j'aimerais prolonger. Vous dites que c'est provençal au XIVe siècle. Alors, bien sûr, les Crécelles, dans la tradition chrétienne, ça existe à un certain moment, justement, dans la semaine pascale, où les cloches ne sonnent pas et les enfants remplacent les cloches par les Crécelles. Mais je crois avoir trouvé véritablement un secret de la Crécelle, si vous le permettez. C'est une découverte qui m'est venue lors de mes insomnies, comme le roi Assuérus. Et là, je peux donner un tuyau aux auditeurs qui ont des insomnies, immédiatement réfléchir sur des gématriotes, sur des valeurs numériques. Et je me suis aperçu que le mot Amalek, donc ce paradigme de l'antisémitisme, de l'antisémite, a une valeur numérique de 240. Et immédiatement m'est venu le fait que le grillon, qui chante en Provence et qui fait le bruit de la crécelle, s'appelle Tsiltsal et a une valeur numérique de 240. Et je me suis dit que les maîtres provençaux ont pensé à la crécelle en pensant au grillon qui a la même valeur numérique que Amalek. Et j'ai trouvé un autre lien avec Amalek et le bruit, puisque Amalek a aussi la valeur numérique du mot Pa'amon, qui veut dire la clochette, la cloche. Et donc tout est lié entre Amalek et le bruit, au point même que le mot, ça c'est les commentaires traditionnels qui le disent, que le mot racha, qui veut dire le mécréant, le méchant, c'est l'anagramme du mot ra'ash, qui veut dire le bruit.
Bien sûr,
et donc tous ces jeux de mots à Pourim, qui est le temps à la fois de la mascarade, à la fois du déguisement, mais aussi du jeu, semblant du jeu de mots, fait que j'ai pensé qu'il y avait ici une piste tout à fait intéressante.
On peut même prolonger 240, Mars, il y a quelque chose d'amer, donc, mais on élève en même temps, Ram, donc,
voilà.
Et Pourim, finalement, ce serait le P, la bouche qui dit l'amertume des choses, mais qui en même temps est capable de les inverser.
Voilà, qui dit l'amertume des choses. Vous le lisez Pourim, alors ça permet de dire que le mot Pourim vient du mot pour, qui veut dire le sort que vous avez évoqué. Et en même temps, cette amertume devant le monde qui est pas toujours souriant et illuminé de bien, est en même temps le moment où on peut s'élever. On peut s'élever en prenant peut-être la distance, ou en tout cas, je crois que ce qui est intéressant dans ce moment de Pourim, vous avez évoqué le fait que ça soit la première fois que le mot juif est prononcé, et j'ai l'impression qu'il y a une sorte de mutation théologique, une mutation identitaire à ce moment de Pourim.
Rabbin Boissière. Vous avez tout à fait raison. C'est peut-être même une des choses les plus centrales. Il y a tellement de choses dans cette fête de Pourim. Je voudrais d'ailleurs dire que, d'une façon générale, Pourim est la fête qui est peut-être amené le plus à évoluer? C'est une, bon, toutes les fêtes, on les célèbre, on en connaît les dynimes, les lois, les règles, etc. Mais pourri, mais très très plastique et évolue constamment. D'abord parce que son actualité, sur le point de vue de l'antisémitisme, nous est constamment rappelée. Et c'est une fête qu'on est amené à s'approprier de plus en plus, je crois. C'est une fête qui évolue encore énormément. Ceci dit, le point central, vous le rappelez, c'est le fait qu'apparaît pour la première fois le mot Yehudi. Et je crois qu'il faut immédiatement mettre ça en rapport avec le fait que c'est le seul livre inclus dans la Bible où n'apparaît pas le mot de Dieu. C'est quelque chose de complètement incroyable qui a donné lieu d'ailleurs à de grandes discussions entre les rabbins. Est-ce que ce livre est susceptible d'être inspiré ou pas? Et je crois qu'effectivement, cette occlusion, en tout cas, du mot de Dieu et en même temps cette apparition du mot Yehudi signale un changement de paradigme. C'est-à-dire que face à la notion, on va dire, biblique, classique, que l'on a dans la Torah notamment, d'un Dieu qui intervient sur la scène de l'histoire, qui intervient en faveur de son peuple chéri, son peuple Am Segula, non pas élu, certainement pas, mais chéri certainement, mais en tout cas, voilà, qui intervient, eh bien là, se fait place à une autre conviction qui est éminemment moderne et auquel le XXe siècle a donné malheureusement une actualité, une acuité encore plus grande, le fait que c'est peut-être à nous, à l'homme, à nous juifs, de prendre en charge l'alliance. L'alliance était, Dieu était extrêmement actif, cette notion d'alliance existe toujours, mais en l'absence de Dieu, Dieu ne disparaît pas. Il est simplement occulté, il est présent d'une autre manière. Esther, je le disais, veut dire Esther Astir, je cacherai ma face. Moïse dit ça dans le Deutéronome. On croit peut-être plus, dans une mentalité moderne, à un Dieu présent, mais plus de manière manifeste. On croit à la prise de responsabilité. Cette prise de responsabilité, c'est le juif qui doit l'assumer. Et ça, c'est tout à fait important.
On verra, je pense, de manière beaucoup plus précise et approfondie, ce thème de la disparition de Dieu dans le livre d'Esther. Mais je crois que c'était important de préciser que juif ne veut pas dire simplement de lignage juif, ce n'est pas une biologisation d'une identité, mais une manière d'être, une modalité d'être au monde. Et le Talmud précise justement à propos de ce Mordechai juif qu'il n'est pas de Juda, puisqu'il était justement de Binyamin, et que juif veut dire tout celui qui refuse l'idolâtrie et est juif tout personne qui a de la gratitude. J'ai aimé cette définition qui rappelle que le mot Yehudi vient du verbe léodote qui veut dire reconnaître et avoir de la gratitude. Et cette formulation de Rashi est juif toute personne qui a de la gratitude. En tout cas, moi, aujourd'hui, j'ai de la gratitude pour cette conversation que je trouve absolument passionnante. Alors, dans la Megillah, il y a cet épisode problématique de ce retournement de situation qui transforme la destruction programmée contre les Juifs en un massacre que les Juifs eux-mêmes vont commettre contre leurs ennemis. Bien évidemment, vous avez dit, ils se défendent, on peut parler de légitime défense. Mais malgré tout, ça pose un véritable problème et je crois que c'est important d'y consacrer une émission, ce que nous allons faire la semaine prochaine. Cette question, elle est si délicate, si importante, donc que l'on va l'approfondir. Alors, Rabbin Boissière, il y a dans cette journée de Pourim, il y a d'autres rites. Et donc, nous avons parlé du rite de la lecture et peut-être même d'un judaïsme, cette nouvelle manière d'être au monde qui est d'être juif par la lecture, je dirais par l'intelligence de la lecture. Mais il y a encore deux autres rites ou trois autres rites que j'aimerais que vous nous en parliez.
Absolument, et j'aimerais ici rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure, à savoir vous soulignez la sirtout, les lignes qui renvoient aux lignes du front. J'aime beaucoup cette dimension du souci. Et juif, celui qui reconnaît, mais celui qui se soucie de l'autre. Et il y a ce souci de l'autre dans la fête de Pourim. Effectivement, la lecture est centrale. Mais il y a de très beaux d'autres rites, ce qu'on appelle matanot la evionim, qui veut dire, une expression hébreu, qui veut dire le don, le cadeau fait aux personnes pauvres. Et puis, il y a aussi mishloach manot ish lereu, quand on lit le verset, qui veut dire mot à mot l'envoi de mets, l'envoi de plat, donc quelque chose qui se consomme ish lere ou chaque homme vis-à-vis de son prochain. Et donc il y a cette dimension de souci de l'autre. C'est très joli de lire cette histoire, c'est très joli de réfléchir sur Dieu, sur son absence, sur sa présence, mais on le sait bien dans la tradition, la présence de Dieu se joue avant tout dans le rapport horizontal d'homme à homme, et dans ces très beaux rites, effectivement, on fait cadeau d'un plat qu'une personne puisse consommer facilement, insistent les sages, donc il y a vraiment un souci du détail, il faut que la personne puisse se nourrir et participer à cette quatrième mitzvah, ce quatrième commandement, cette quatrième obligation réjouissante, michté vesimcha, c'est-à-dire vraiment le repas et la joie, le festin et la joie qui est une caractéristique générale du Yom Tov, du jour de fête dans le judaïsme, mais particulièrement à Pourim, c'est une obligation de se réjouir et de manger. Et donc il y a effectivement cet aller-retour entre la lecture, le texte et le visage de l'homme, à la fois dans sa joie, à la fois dans son souci, la façon dont se plisse le visage, parce que c'est ça qui rend un visage vivant, c'est l'impact qu'a l'autre, il faut le regarder, cet autre, il faut le voir se déformer par la joie, par le souci, et peut-être les deux à la fois, sourire. Sous les yeux, sur le front, le sourire, etc. La façon dont se plissent ces masques, voilà, un masque, c'est une extériorité, mais une extériorité fixe, définie, c'est un rôle, c'est un type. Et bien pour Im, c'est justement comment on plie le masque, comment derrière le masque, finalement, s'anime quand même le panim, l'intériorité, le visage, et il y a ce souci alors, très social, très très pratique, axé sur la réjouissance et le bien-être physique de l'autre, la façon dont il mange, la façon dont il rit. Effectivement, ce sont des rites tout à fait centraux.
Parce qu'au-delà parce qu'il y avait le danger dans le fait que l'on a aussi l'ordre de boire, d'être dans l'ivresse jusqu'à la confusion d'Aman et de Mordechai, c'est-à-dire jusque dans la fragilité des valeurs que l'on peut comprendre, cette ivresse renvoie peut-être beaucoup plus à la solitude de l'homme qui est dans son propre vin, si je peux dire. Et c'est là que au-delà de cette solitude existentielle, de ce repli sur soi, de cette égologie, si on peut dire, surmonter ce retour à soi vers un regard vers l'autre et vers ce visage que vous avez souligné de manière si importante pendant tout ce dialogue. Alors, merci Rabbin Boissière pour vos précieux éclairages. Je vous invite donc à poursuivre cette conversation lors de notre prochaine émission. C'était Talmudique, une émission de Marc-Alain Waknin, préparée avec Françoise-Anne Ménager, à la technique aujourd'hui, Philippe Palares, à la réalisation, Dany Journeau. Kol Touv et Leïtraot, à la semaine prochaine.